12 ans. Les 12 ans rendent agité, viril, donc lucide également. Beaucoup de garçons brutaux dans la classe. L'école ne me disait rien. Les amis, un garçon aux cheveux noirs, nous faisions des cochonneries ensemble, nous allions dans la campagne et nous fumions, nous nous aimions, nous nous estimions. Ce dont on a surtout besoin dans cette période. Un garçon blond avec un teint malsain. On le ficelait dans des costumes de chez Blyle, mais il les portait avec prestance, et ses yeux verts disaient la puissance. Il faisait des herbiers et nous prêtait des livres où passait le grand souffle du large. Nous avions aussi des timbres, des aimants et une longue vue. Le métal attirait et le verre était l'homme fort qui nous portait vers les choses les plus lointaines. On voulait partir. En ce temps-là, je demandais aussi pourquoi les choses ont-elles des poids différents. Et je le notais. 15 ans. On saisissait les dessous de la vie, maintenant qu'on était éclairé. L'école, évidemment, était toujours atroce. Nous subtilisant 9, 10 ans de notre jeunesse, on n'arrivait pas toujours à passer dans la classe supérieure. Que de petits bourgeois, de détraqués, de programmes suspendus au-dessus de nos têtes. On était leurs chiens, on était rebelles. Il y avait un ou deux professeurs moins racornis que les autres. Mais il ne faisait pas le poids contre la moisissure de l'établissement. Il ne savait rien de nos expériences juvéniles, précoces et graves que nous tentions pour trouver notre chemin. Enfin arrivait la 16e année. On devinait beaucoup plus jeune. De nouveau, tout était dans les rêves. J'avais une fois redoublé, et bien que le lycée restât tout aussi stupide, j'avais maintenant de meilleurs camarades. Réellement, il y avait entre nous une véritable communauté. Parmi nous, dans la nouvelle classe, il y avait de grands garçons, bons camarades, qui apportaient dans les rues silencieuses quelque chose de sauvage et de primitif, surtout la nuit. Ce qui fut ne doit pas non plus comme tel nous retenir. Rien ne doit en être recherché trop fidèlement. Il ne faut pas revenir, revenir pour de bon. Souvent on en rêve, mais il faut bien prendre garde, précisément. Vicieux est le désir qu'on en a et on le paie très cher. Et presque toujours sur les lieux mêmes qu'on cherchait et qu'on a trouvés. Hommes et choses ont déjà pris le large, même s'ils ont l'air d'être comme avant. Il n'y a plus cet homme intermédiaire qui s'était formé entre le « je » et le « tu ». La plupart du temps, ce tiers est mort. Le souvenir ne le restitue pas, il ne mange pas de ce pain-là. C'est ainsi que les amis d'autrefois se regardent comme des revenants. Leur mémoire est crispée, rarement aisée et presque toujours insipide. Ils ne se voient pas eux-mêmes. Ils voient le passé dans un souvenir sans vie. Celui-ci ne bouge pas d'un pouce, reste passé, bref, il est hors jeu. Plus anodin est le désir de revenir dans la maison où l'on vivait étant enfant. L'escalier qu'on connaît depuis qu'on l'a pratiqué à quatre pattes, la fenêtre du dernier palier d'où l'on voyait de si près le toit du voisin, et l'hiver la cheminée en fumant les ciels étoilés. Ou le balcon de derrière avec les entailles marquant chaque année la croissance. Les enfants adorent cette échelle merveilleusement historique. Sur ce point aussi, le retour est une déception. La vie d'alors et celle d'aujourd'hui n'ont aucun contact, sinon dans la mélancolie. Les choses sont encapsulées dans leur passé, en pure perte, on n'en voit rien, ou une image fausse.